Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, nouvelle émission. Nous avons jeudi dernier fait passer un film dans le cadre d'Au cinéma pour les droits humains, qui est un festival de films d'Amnesty dans tout le Grand Sud-Est. Et nous avons passé 4 courts-métrages qui ont été, je pense, beaucoup appréciés, dont notamment Paradis ininterrompu, puisque nous avions la présence du réalisateur, le jeune Juan David Romero, qui a animé le débat. Nous allons dans un premier temps écouter son interview qu'Odile a réalisée pour Fréquence Mistral, et je reviendrai un petit peu sur son intervention au lycée Pierre-Gilles de Gênes.
Juan David Romero, vous êtes le réalisateur de ce magnifique film qui s'appelle Paradis ininterrompu.
Oui, c'est ça, Paradis ininterrompu. Ça s'appelle comme ça parce que c'est des réfugiés qui ont un rêve dans sa vie et il veut avoir un paradis. Mais il a vécu beaucoup de choses qui sont très difficiles dans sa vie, qui arrêtent ses rêves. Quand la guerre commence en Syrie, il ne peut pas étudier non plus. Il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas continuer la vie normale. Alors, quand il vient ici dans la France, il essayait de recommencer sa vie, d'obtenir encore ses paradis.
Vous-même, vous avez été réfugié ?
Non, je ne suis pas réfugié, mais je suis migrant. J'ai migré de les pays Colombie, Amérique du Sud, aux États-Unis. Et après, j'ai obtenu mon passeport et j'ai devenu citoyen des États-Unis.
Comment vous est venue l'idée de faire ce court-métrage ? C'était une nécessité ?
L'idée de faire ce court-métrage, c'est parce que dans ces moments, 2016, je voyageais à l'Europe pour devenir bénévole avec des associations qui aidaient les réfugiés. C'est mon but de faire ça, beaucoup, particulièrement pour la situation qui se passe aux États-Unis avec le nouveau président Donald Trump à 7 ans. Il a dit beaucoup de choses qui, à mon avis, sont très mal de les réfugiés. Alors j'ai dit moi-même, je veux faire quelque chose. Je veux aider les gens et peut-être raconter leur histoire parce que je suis journaliste aux États-Unis. Et je dis moi-même, je veux raconter les histoires de les réfugiés qui viennent de la Syrie parce qu'aux États-Unis, je ne connais pas des gens qui sont réfugiés de la Syrie.
Et vous montrez bien que les réfugiés, ce n'est pas demander la mendicité, c'est simplement d'être accueilli et d'être compris et mieux se connaître pour mieux accepter l'autre.
Oui, c'est ça. C'est d'accepter d'une à l'autre et de savoir que les réfugiés, souvent, ils n'ont pas le choix. S'il veut venir à la France ou pas, s'il va aller à l'Allemagne ou pas, c'est pas un choix. C'est une chose, une décision dans sa vie qu'il doit faire dans un moment de guerre, un moment de beaucoup de difficultés. Et comme Raman dit dans le film, on venait ici pour des opportunités, pour travailler, pour étudier, pour faire tout ça. Mais malheureusement, beaucoup de réfugiés qui viennent ici dans la France, ils ne trouvaient pas toutes ces opportunités immédiatement. Ils passent beaucoup de choses difficiles pour avoir ces choses. Ils doivent apprendre le français. S'ils ne savaient pas le français, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas faire rien. Et s'ils ne sont pas de réfugiés, le statut de réfugié, ils ne peuvent pas avoir d'aide. Alors c'est très difficile pour lui, pour recommencer sa vie.
Alors ce soir, vous avez répondu aux questions des personnes qui étaient présentes dans cette salle. On vous a posé quelques questions, comme si tous les réfugiés ne sont pas traités, accueillis de la même façon.
Oui, le voyage de tous les réfugiés, c'est très très différent. Dans mon court-métrage, Raman Ismail, il est né en Syrie. La guerre en Syrie a commencé. Il a voyagé à la Turquie. Ses frères ont voyagé à l'Europe. Et il a essayé de rejoindre sa famille, son frère, à l'Europe. Et après, il a avoir son visa dans le consulat de la France en Turquie. Et il vient dans son avion à Paris. Mais ce n'est pas le même voyage pour tous les réfugiés. Il y a des réfugiés qui viennent en bateau sur la mer. Il y a des réfugiés qui viennent traverser la Grèce et après des autres pays pour venir ici. Et c'est très, très difficile. Mais la question que les gens doivent demander à eux-mêmes, c'est que pourquoi une personne va passer toutes ces difficultés pour aller à un autre pays? Ce n'est pas un choix. C'est difficile. C'est très, très, très difficile. C'est pour ça que les gens font ça. Et quand même, il y a des gens qui dorment dans la rue, ici en Paris, en Lyon. Mais ça, c'est plus mieux qu'être dans leur pays avec la guerre, avec l'impression de que tout va mourir le jour après.
Vous avez assisté aux autres projections de courts-métrages. Qu'est-ce que vous avez pensé du film qu'on a vu ce soir?
Le film qu'on a vu ce soir, c'est, tous les films sont très différents. Il y a des films qui parlent de la situation de la femme qui travaille en Maroc et il essayait de traverser la frontière avec l'Espagne. J'imagine ça c'est Melilla en Maroc pour gagner la vie. Il gagnait justement 5 euros pour un voyage. C'est incroyable. Il y a les natifs qui habitent à Pérou. Il y a des mines, l'exploitation des mines. Comme cette exploitation des mines, c'est très mal pour les natifs qui habitent dans la montagne, qui vivent de la nature, de l'eau, contamination là-bas. Et aussi l'autre film qui parle de l'homosexualité et d'ouvrir les portes à gens qui sont différents, qui pensent différents. Je l'ai dit à tous les mots, essayez de sortir dans la rue, de sortir dans la ville et essayez de parler avec un réfugié, justement une personne. Demande-lui qui est toi, comment t'appelles, d'où viens-tu. Essayez d'engager une conversation. Et je serai bien sûr que tu vas être surprise. Parce que c'est comme ça qu'on change les choses dans le monde. On ne peut pas trouver la solution pour tous les problèmes de tout le monde dans la vie. Mais on peut essayer de faire un peu. Et une chose, comme justement parler avec un réfugié, il change beaucoup de choses dans leur vie. Parce qu'ils sont des gens qui sont tout seuls. Ou qui avait passé beaucoup de difficultés. Et je serais bien sûr qu'il serait très content de faire connaissance.
Vos projets, votre film va continuer à circuler?
Oui, l'année dernière, on a fait beaucoup, beaucoup de projections. Le réfugié Rahman Ismail, il a fait beaucoup de projections autour de la France, soi-même. On a rentré dans un festival de cinéma en Washington DC, on a montré là-bas. J'ai montré le film dans mon pays, en Colombie, et aussi aux États-Unis. On a rentré dans un festival de cinéma sur la migration avec les Nations Unies et on a montré ça avec leur aide. On a montré le court-métrage dans beaucoup de pays, dans l'Afrique, dans l'Asie, dans l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Mais cette année, je veux montrer le film dans d'autres choses. Il y a une association à Nîmes, ici en France, qui m'a contacté pour montrer le court-métrage en juin. Et j'ai aussi d'autres courts-métrages qui parlent d'un réfugié qui est irakien, mais il est LGBT, il est homosexuel. Ce film aussi, j'ai montré dans beaucoup de festivals. Et 7 avril, il va être montré dans le festival international Phénicien en Lyon. Je vais le montrer là-bas.
Merci.
Merci beaucoup.
Voilà. Juan David, donc le réalisateur de Paradis ininterrompu, vous a fait un petit résumé des 4 courts-métrages que nous avons passés cette soirée, jeudi dernier. Mais avant la soirée, de 13h à 17h, nous étions tous les deux avec une autre militante d'Amnesty International de Digne, au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Et nous avons passé 3 fois le film à des élèves de seconde. Et chaque fois, il y a eu un petit débat avec ces jeunes. Mais ils étaient tous très impressionnés par le film, par le courage du jeune migrant qui s'appelle Rahman. Hein, et par le fait que ça donnait un autre visage que ce qu'on nous montre très souvent à la télé avec des histoires qui sont dramatiques, qui se finissent mal des fois au fond de la Méditerranée. Hein, et, ou de personnes qui mendient, etc. Et là... le réalisateur voulait montrer que, en fait, c'est bien d'aller à la rencontre de ces migrants parce qu'on se rend compte que, à la fois, ils sont différents, mais on est tous différents. Et en même temps, il y a y a de la sympathie, de l'empathie en discutant. On se rend compte qu'on a des points communs. Et tous les jeunes ont ressenti ça. Et je pense que suite à ces débats, ils vont aller un peu plus vers les migrants qu'ils rencontrent, les jeunes migrants qu'ils rencontrent à Digne, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et ils nous ont dit qu'ils les rencontraient au sport, des fois ils les croisaient dans la rue. Et peut-être qu'ils vont aller vers eux un peu plus pour échanger, parce que en fait, en échangeant, eh ben, on met à bas les préjugés que nous avons tous, et on va dans la rencontre et on comprend mieux l'autre.
C'est vrai que ce film, pour ça, est très positif. On a tout de suite une sympathie, une empathie pour ce jeune Syrien.
Oui, alors ce jeune Rahman, donc le lendemain, j'ai amené Juan David à Riance. Mm-hmm. Et Rahman nous a rejoints. Il a pu se libérer de son école, puisqu'il fait une école d'architecture. Il est en deuxième année et ça marche très bien. Hein. Vous avez vu, dans le film, on voit bien qu'il a très bien appris le français. Et donc, il fait ses études et en même temps, il est militant parce qu'il projette son... Il va avec son film faire des débats un peu partout. Et donc, je l'ai rencontré et je lui ai dit que j'avais l'impression de le connaître puisque j'avais vu son film 4 fois dans la journée, la veille. Et donc, ça l'a fait rire. On a sympathisé de suite. Et voilà, donc c'était bien cette rencontre. Voilà, alors on va mettre un petit peu de musique. Ben, on va rester en Amérique du Sud avec Angel Parra pour sa chanson « La Libertad ».
Amar la misma barcaza que antes nos privó de libertad, hace el camino de vuelta a Iquique nos llevará. En el destierro lejano quemaba una interrogante: ¿cómo es la libertad? No puedo el rostro encontrarle. ¿Cómo es la libertad? No puedo el rostro encontrarle. La libertad eres tú, son tus ojos y tu pelo, es la leche de los niños, es la bandera del pueblo, es buenos días, señora, es el tranvía o el cerro, es el canto esperanzado, es Neruda en el desvelo, es el aire, son las flores, es el viaje de regreso, es el marinero errante o el que se quedó en Quintero, es la noche y es el vino, es el mantel recién puesto, es el hombre trabajando en la fábrica o en el puerto, es la esencia de los libros, es el silbido del viento, es no poder decir nunca que la libertad ha muerto, es no poder decir
que la libertad ha muerto.
Voilà. Je voulais dire aussi que par rapport au film Paradis interrompu, donc la réaction des jeunes lycéens qui ont dit « Ah, ben ça nous ouvre les yeux sur les migrants ». Et puis ensuite, le professeur, à la fin des trois séances, le professeur est venu vers nous et il nous a dit « J'étais assez pessimiste sur l'avenir du monde hein. ». Donc il est professeur d'histoire, il connaît bien la géopolitique, tout ça. Et puis finalement, en voyant la réaction des jeunes, ça me redonne un peu de l'espoir. Et puis en voyant ce que vous faites aussi, Amnesty, et puis ce film, tout ça, voilà, ça lui a redonné un petit optimisme.
Ah, ça fait du bien, oui.
Voilà, alors ça fait du bien. Voilà, alors maintenant, je vais vous parler d'un cas qui nous révolte tous à Amnesty International. C'est celui de Nasrin Sotoudeh, qui est une avocate iranienne spécialisée dans la défense des droits humains et des droits des femmes et qui a été condamnée à un total de 38 ans de prison et 148 coups de fouet à l'issue de deux procès manifestement iniques. Elle est notamment inculpée en représailles de son travail pacifique en faveur des droits humains, d'incitation à la corruption et à la prostitution, d'avoir commis ouvertement un acte immoral. Et tout ça, c'est en apparaissant en public sans porter le voile.
Incitation à la prostitution.
Incitation à la prostitution pour s'être montré en public sans le voile et de troubles à l'ordre public. Donc, pour ça, et parce qu'elle est avocate qui défend les droits humains et les droits des femmes, elle est donc condamnée à 38 années de prison et 148 coups de fouet. Ce qui est un acte de torture complètement condamné par tous les textes internationaux. Voilà. Et ça se passe en Iran, de nos jours. Dans le cas de Nasrin, le juge a appliqué la peine maximale prévue par la loi pour chacun des 7 chefs d'inculpation et lui a infligé 4 années supplémentaires. Voilà. Donc... incarcérée, une défenseuse des droits humains en raison de ses activités pacifiques est déplorable. Mais le fait que le juge ait usé de son pouvoir discrétionnaire pour qu'elle soit enfermée pendant plus longtemps encore que la durée requise au titre du droit iranien ajoute à l'injustice flagrante de sa condamnation. Donc c'est la condamnation la plus sévère jamais recensée contre un défenseur des droits humains en Iran ces dernières années. Cela laisse à penser que les autorités, encouragées par l'impunité généralisée en matière de violation des droits humains, durcissent leur répression. Nasrin Sotoudeh a consacré sa vie à défendre les droits humains, et les femmes en particulier, et à dénoncer la peine de mort. En tant qu'avocate, elle a notamment défendu des femmes protestant contre les lois relatives au port obligatoire du voile en Iran. Il est révoltant que les autorités iraniennes la punissent pour son travail pacifique en faveur des droits humains. Ce jugement ternit davantage la réputation de l'Iran, un pays déjà tristement connu pour oppresser les droits des femmes. Il est urgent que la communauté internationale, notamment l'Union européenne, qui entretient un dialogue actif avec l'Iran, prenne publiquement position contre cette condamnation honteuse et intervienne pour que Nasrin Sotoudeh soit libérée immédiatement et sans condition. Alors ce que chacun peut faire de chez lui, c'est aller sur le site amnesty.fr. Et il y a tous les renseignements pour envoyer un tweet afin d'interpeller le guide suprême de la révolution de la République islamique d'Iran ou par mail d'envoyer un message à l'ambassade d'Iran pour protester contre cette injustice sans nom qui frappe cette femme, Nasrin Sotoudeh.
Il ne suffit pas de signer une pétition.
Voilà, on peut signer donc une pétition, mais on peut aussi envoyer un mail. Donc, il y a un modèle de lettre. Mm-hmm. Vous pouvez ajouter quelques mots personnels si vous voulez. Et puis, envoyer un tweet sur ceux qui sont abonnés à Twitter au guide suprême de la révolution. Voilà, il faut agir. Et on a eu beaucoup de témoignages comme quoi, quand Amnesty fait agir les personnes, les individus, les personnes qui sont en prison injustement, même si elles ne reçoivent pas de courrier directement, ont toujours à un moment donné, apprennent qu'elles ne sont pas oubliées, qu'il y a des gens qui agissent pour elles. Et ça leur redonne du moral et bien sûr, ça fait aussi avancer leur cas et on arrive à des libérations, à des changements de jugement. Et donc là, je vous encourage vivement à aller sur le site amnesty.fr et voir ce cas de Nasrin Sotoudeh et d'agir pour sa libération. Voilà, on va maintenant écouter la chanson de Jacques Lair qu'on avait déjà passée dans notre émission qui s'appelle Amnesty Amnesty et qui montre justement combien les lettres, les courriers qu'on envoie peuvent avoir une portée pour les personnes injustement enfermées ou torturées. Voilà. On écoute Jacques Lair.
Pour seul délit, j'ose penser trop fort, trop la liberté. Je refuse la dictature, quelques barreaux et quatre murs. Je me retrouve emprisonné, mon intégrité torturée. Ils ont muré mon âme. Amnesty, amnesty, allume ta bougie. Amnesty, amnesty, écris-moi je t'en prie. Libère le vol de la colombe, éclaire cet horizon si sombre. Ma faiblesse est d'être un enfant, né d'une ville à feu, à sang. Ils ont mis dans mes mains une arme, pour venger mon peuple et mes larmes. Alors je tire sur des ennemis, qui étaient hier mes amis. Ils ont saigné mon âme. Amnesty, amnesty, allume ta bougie. Amnesty, amnesty, écris-moi je t'en prie. Je ne veux plus creuser des tombes, mais voir voler haut la colombe. Je suis né seul, je suis né pauvre, jeune et joli livré aux fauves, qui m'offre une cage dorée, où je me sens salivolé, privé de mon identité, abusé, caché, oublié. Ils ont violé mon âme. Amnesty, amnesty, allume ta bougie. Amnesty, amnesty, écris-moi je t'en prie. Efface les souillures immondes, déploie les ailes de la colombe. Mon cœur est guidé par un dieu, mais chez moi il n'en faut pas deux. Ils m'ont forcé à le renier, sous une épée je dois prier. Sous peine de connaître l'enfer et terminer six pieds sous terre. Il crache sur mon âme. Amnesty, amnesty, allume ta bougie. Amnesty, amnesty, écris-moi je t'en prie. Les dieux volent en paix et en ombre sous les ailes de la colombe. Seul délit est de défendre ce qu'on veut torturer et pendre, d'agir pour que les droits de l'homme ne s'effacent pas d'un coup de gomme. Mon engagement clair et lucide dérange les liberticides. Ils enchaînent mon âme. Amnesty, amnesty, allume ta bougie. Amnesty, amnesty, écris-moi je t'en prie. Tes coups de plume sur le monde, ouvre la cage de ma colombe. Amnesty, amnesty, allume tes bougies. Amnesty, amnesty, écris-nous, je t'en prie. Amnesty, amnesty, j'allume ma bougie. Amnesty, amnesty, pour libérer, j'écris.
Voilà, très belle chanson de Jacques Lair, un dinois. Alors maintenant, je vais vous parler d'un cas des 10 jours pour signer. Vous savez qu'en décembre dernier, de nombreux Dinois sont venus à la médiathèque signer des pétitions pour 10 personnes dans les cas dont les droits n'étaient pas respectés. Et parmi ces 10 personnes, il y avait notamment une militante des droits des personnes handicapées qui s'appelle Guzar Dushenova et qui travaille au Kyrgyzstan. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que grâce à la pression internationale, nous avons obtenu une victoire au Kyrgyzstan pour les personnes handicapées. En effet, le 14 mars, le président Sooronbay Jeenbekov a promulgué la loi portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui avait précédemment été adoptée par le Parlement du Kyrgyzstan. Donc le Kyrgyzstan est l'un des 3 pays de l'ex-Union soviétique qui avait signé, mais pas encore ratifié ce texte. Donc c'est une avancée majeure pour le droit des personnes handicapées dans ce pays. Et je remercie encore toutes les personnes qui, pour les 10 jours pour signer, ont signé pour cette militante des droits des personnes handicapées. Et ça montre bien que notre action mondiale porte ses fruits et on est content d'avoir ainsi de bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors on va écouter maintenant la chanson de Goldman, Je te donne. C'est une chanson qu'il a justement donnée à l'association L'Arche de Jean Vanier qui s'occupe justement de vivre avec les personnes handicapées. Et voilà, donc ça parle des différences et c'est bien de se donner nos différences.
I can give you a voice spread with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry your thoughts in the songs we sing.
Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences. Tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
I can give you the force of my ancestral pride. To go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day.
Je te donne nos doutes et notre indicible espoir. Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brûlées, l'on parle un peu fort. Et l'humour et l'amour sont nos trésors.
Les raisons qui me portent.
Nous allons maintenant écouter Nicolas Cramayer, qui travaille à Amnesty International France. Il est le responsable du programme Liberté au sein de notre mouvement. Et il va vous expliquer pourquoi le gouvernement français casse le droit de manifester. Nous l'écoutons, Nicolas Cramayer.
Le gouvernement casse le droit de manifester. Nous sommes toutes et tous concernés. Voici pourquoi. Afin d'être le plus clair possible, nous allons prendre un exemple. Imaginons un manifestant. Celui-ci arrive à la manifestation. À proximité, il y a des violences. Lui n'y participe absolument pas. Bien au contraire, il cherche à s'en éloigner. Des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement sont alors lancées par les forces de l'ordre et notre manifestant se retrouve obligé de se protéger le visage. Il est alors arrêté par la police. Oui, simplement pour s'être protégé le visage, ce qui est banal, ce qui est humain, notre manifestant peut aujourd'hui être arrêté et recevoir une amende. Encore une fois, nous parlons d'un manifestant pacifique qui cherchait juste à se mettre à l'abri des gaz lacrymogènes. Cette personne, ça aurait pu être vous, un ami ou quelqu'un de votre famille. Difficile à croire, hein ? Et pourtant, les derniers chiffres sont parlants. Sur les 8400 personnes interpellées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, au moins plusieurs centaines de manifestants ont été interpellés et placés en garde à vue avant même d'avoir pu rejoindre la manifestation et simplement pour avoir eu sur eux du matériel de protection. Bon, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. La situation pourrait empirer avec une nouvelle loi, la loi dite anti-casseur. Reprenons le cas de notre manifestant pacifique dans une situation similaire. Celui-ci cherche à fuir les violences, se couvre le visage pour se protéger et se fait interpeller par la police. Sauf qu'avec cette proposition de loi, et sans entrer dans les détails juridiques, notre manifestant risque alors bien plus gros qu'une arrestation arbitraire. 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Une peine d'interdiction de manifestation. Et enfin, une inscription au fichier national des personnes recherchées en tant que personne interdite de manifester. En plus, avec cette loi, les préfets pourront désormais interdire à des personnes de manifester sur des motifs très vagues, très flous, et tout ça très loin du regard de la justice. Comme je vous le disais, tout le monde est concerné. Salariés, chômeurs, étudiants, retraités, infirmiers, journalistes, avocats, tout simplement nous, citoyennes et citoyens, lorsque nous souhaitons exercer notre droit de manifester pacifiquement. C'est un droit fondamental qui est aujourd'hui gravement menacé. Le gouvernement casse le droit de manifester. Nous sommes toutes et tous concernés. Interpellez avec nous les autorités françaises. Rendez-vous sur amnesty.fr.
Voilà, et nous pensons bien sûr à cette dame de 75 ans là, qui a été violemment blessée par les forces de l'ordre à Nice le week-end dernier. Et elle manifestait pacifiquement, justement, en portant un drapeau pour la paix. Hein, voilà. On va maintenant écouter donc une chanson de Victor Jara qui s'appelle « Manifesto ».
Mi canto, como dijera Violeta. se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras.
Amnesty International, nous nous opposons à la peine de mort en toutes circonstances, quelle que soit la nature du crime commis, les caractéristiques de son auteur ou la méthode utilisée par l'État pour l'exécuter. Nous menons une campagne permanente pour l'abolition de la peine de mort en intervenant pour les condamnés à mort qui risquent d'être exécutés et en agissant auprès des États non abolitionnistes pour les engager à introduire l'abolition dans leurs lois. Nous travaillons sans relâche à sensibiliser responsables politiques et opinion publique. Et tous les militants d'Amnesty écrivent régulièrement pour demander de ne pas exécuter telle ou telle personne. Et on se rend bien compte en écrivant ces courriers que très souvent, on exécute des personnes pour éliminer des opposants ou il y a un phénomène de racisme dans les condamnations à mort, hein, notamment aux États-Unis. Alors, on a une très bonne nouvelle qu'on a eue récemment. C'est le gouverneur de l'État de Californie, Gavin Newsom, qui a annoncé un moratoire contre cette pratique cruelle, inhumaine et dégradante. C'est un premier pas vers l'abolition de la peine de mort dans cet État. Il a notamment déclaré « La peine de mort est incompatible avec nos valeurs fondatrices » et atteint au plus profond l'idéal que représente le fait d'être californien. Alors il faut dire que la Californie est un État des États-Unis qui a un nombre de personnes dans les couloirs de la mort très important. En fait, ils exécutent peu, puisque le 21 février 2006, la dernière personne qui a été exécutée en 2006, vous voyez. Mais par contre, il y a énormément de personnes qui attendent l'exécution dans le couloir de la mort. Sur les 2800 personnes qui sont dans les couloirs de la mort aux États-Unis, il y en a presque 750 qui se trouvent en Californie. Donc voilà, on espère que la Californie va rejoindre les 20 États qui ont désormais aboli ce châtiment cruel, inhumain et dégradant. aux États-Unis. C'est un premier pas vers cette victoire. Alors, je vous parle de la peine de mort parce que jeudi 28 mars, jeudi qui vient, à 18h15, nous allons passer un film dans le cadre du Festival au cinéma pour les droits humains d'Amnesty International dans le grand sud-est de la France. Le film Lindy Lou. Alors, Lindy Lou, il y a plus de 20 ans, cette femme a fait partie d'un jury qui a condamné un homme à mort. Depuis, la culpabilité la ronge. Sa rédemption passera-t-elle par ce voyage qu'elle entame aujourd'hui, à travers le Mississippi, dans le but de confronter son expérience à celle des 11 autres jurés? Ce film, Lindy Lou, juré numéro 2, traite de la peine de mort aux États-Unis et plus particulièrement dans l'État du Mississippi, sous un angle original. Il donne la voix aux jurés, simples citoyens, qui, le temps d'un procès, ont un pouvoir de vie et de mort sur un accusé. Ce sont les voix différentes d'une Amérique confrontée à la sentence capitale. Acteur décisif dans l'application ou non de cette sentence, les jurés peuvent en devenir aussi les victimes collatérales, car ils ont un pouvoir redoutable, celui de donner ou non la mort. Quand vient le moment de l'exécution, la violence du meurtre condamné rejaillit au travers d'un autre meurtre totalement prémédité, celui d'un assassinat étatique. Peu de films ou documentaires sur la peine capitale aux États-Unis s'attachent à nous faire ressentir la charge que représente pour un simple citoyen la responsabilité d'exercer le pouvoir de vie ou de mort sur un être humain, même coupable d'un crime atroce. La plupart des documentaires sur le sujet donnent habituellement la voix aux condamnés, aux familles de victimes ou encore aux militants abolitionnistes. En choisissant le point de vue des jurés, le long métrage peut amener le spectateur à réfléchir au poids du jugement rendu et à sa propre position sur la peine capitale. C'est donc un film tout à fait original que je vous conseille de voir.
Ça n'a pas été toujours comme ça ? Les jurés qui décident...
Voilà, ce sont les jurés qui décident.
Mais ça a toujours été comme ça ?
Ça a toujours été comme ça. Et l'originalité de ce film, c'est que c'est un film qui aborde le thème de la peine de mort, mais sous le regard des jurés. Comment les jurés ont vécu ce procès et le fait qu'ils ont décidé la mort à la fin des débats. Donc elle, cette personne qui s'appelle Lindy Lou, c'est le titre aussi du film, en a eu du remords toute sa vie, au point qu'elle décide d'aller voir les jurés qui étaient avec elle, un par un. Donc elle avait la liste, elle avait les noms, et elle retrouve leur adresse. Et elle parcourt l'État du Mississippi pour les rencontrer et voir comment chacun
a vécu
la sentence. Et puis ensuite, après l'annonce de... parce que la personne qui avait été condamnée a été exécutée plusieurs années après. Mais l'exécution avait eu lieu quand Lindy Lou décide de parcourir l'État pour retrouver chacun des jurés et discuter... avec elle. Donc c'est une façon originale d'aborder ce thème de la peine de mort. Et donc je vous invite vivement à venir jeudi 28 mars à 18h15 au Cinétoile de Digne-les-Bains, donc pour assister à ce long métrage qui s'appelle Lindy Lou, juré numéro 2. Et pour débattre, alors nous avons invité pour animer le débat Anne Denis, qui travaille à Amnesty France. C'est la responsable de la commission abolition de la peine de mort pour Amnesty section française. Donc elle va venir de Paris exprès pour animer le débat autour de ce film Lindy Lou. Voilà, donc on va écouter maintenant une chanson de Julien Clerc sur ce thème, l'assassin assassiné. C'est une chanson qu'il avait créée justement quand Badinter, à l'époque où Badinter a obtenu l'abolition de la peine de mort en France en 1981. Et d'ailleurs, Badinter, dans une interview, parle de cette chanson de Julien Clerc qui, en fait, l'avait aussi aidé comme quoi les artistes peuvent aider à faire évoluer les mentalités et les idées. Voilà, c'est donc L'Assassin assassiné de Julien Clerc.
C'était un jour à la maison, je voulais faire une chanson d'amour, peut-être à côté de la fenêtre, quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono, et moi penché sur mon piano, comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots à ma musique. Le matin même, à la santé, un homme avait été exécuté, et nous étions si tranquilles. Là, au cœur battant de la ville, c'était une fin d'après-midi, à l'heure où les ombres fidèles sortant peu à peu de chez elles composent doucement la nuit. Comme aujourd'hui, ils sont venus à pas de loup. Un ton doux, c'est le jour, c'est l'heure, il les a regardés sans couleur, il était à moitié nu. Voulez-vous écrire une lettre? Il a dit oui, il a pas pu, il a pris cigarette. Sur mon travail tombait le soir, mais les mots restaient dans le noir. Qu'on me pardonne, mais on ne peut certains jours écrire des chansons d'amour. Alors j'ai fermé mon piano, paroles et musique de personne, et j'ai pensé à ce salon au sang lavé sur le pavé, par ces bourreaux, je ne suis président de rien, moi je ne suis qu'un musicien. Je le sais bien, et je ne prends pas de pause pour dire seulement cette chose. Mais sur les assassins commence, oui, mais la société recommence. Le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore, c'en est encore. Chacun son tour, ça n'est pas drôle, on lui donne deux, trois paroles et un peu d'alcool, on lui parle, on l'attache, on le cache dans la cour. Un grand dais noir protège sa mort des regards. Et puis ensuite, ça va très vite, le temps que l'on vous décapite. Si je demande qu'on me permette à la place d'une chanson d'amour, peut-être de vous chanter un silence, c'est que ce souvenir me hante. Lorsque le couteau est tombé, le cri m'a changé de côté. Si j'y ce soir dans ma mémoire, un assassin assassiné, assassiné, assassiné.
Voilà le cri du cœur de Julien Clerc contre la peine de mort. Alors je vais maintenant, au terme de cette émission, vous rappeler quelques dates. Déjà ce soir à 18h15, les Coquelicots, vous savez, ce regroupement de personnes qui luttent contre l'emploi des pesticides et produits mortels pour les insectes, mais pour les hommes aussi, organise un ciné-débat autour du film « Le grain est livré » de Fernando Solana. Donc Fernando Solana a voyagé caméra au point à travers 7 provinces d'Argentine à la rencontre des populations locales, d'agriculteurs et de chercheurs qui nous racontent les conséquences sociales et environnementales du modèle agricole argentin, agriculture transgénique et utilisation intensive du glyphosate, épandage, fumigation, etc. Ce qui a provoqué l'exode rural, la déforestation, la destruction des sols, mais aussi la multiplication des cas de cancer et de malformations de la naissance. Le récit de Fernando Solana évoque aussi l'alternative d'une agriculture écologique en démontrant qu'il est possible de produire de manière saine et rentable des aliments pour tous, sans pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux naturels. Voilà, c'est un combat qui rejoint bien sûr le combat des droits humains, puisque c'est un combat pour le droit à la santé et puis le droit de pouvoir continuer à vivre sur cette planète menacée par la pollution. Voilà, donc ce soir à 18h15 au Ciné Étoile de Digne-les-Bains. Mardi soir, c'est-à-dire demain soir à 18h, réunion du groupe d'Amnesty International de Digne dans les salles des associations à côté de la mairie de Digne. Vous pouvez venir assister à une réunion si ça vous intéresse, ce serait volontiers. Ensuite, jeudi 28 mars à 18h15, encore au Ciné Étoile, décidément il y a beaucoup d'activités dans ce cinéma, il y a donc le film que présente Amnesty International qui s'appelle Lindy Lou, juré numéro 2, dont je vous ai parlé, et qui le débat sera donc animé par Anne Denis, responsable de la commission abolition de la peine de mort à Amnesty International France. Et puis je vous rappelle que dans un mois, ce sera notre foire aux livres de printemps, le vendredi 26 avril de 14h à 19h30. Et le samedi 27 avril, de 9h à 17h. Voilà, alors, venez nombreux à notre foire aux livres pour faire la provision de livres à prix modique sur tous les sujets et qui vous permettront de passer un printemps et un été de lecture. Voilà les dernières informations. Et nous vous quittons en vous disant au mois prochain.
Au revoir Régis, merci pour cette belle émission et au mois prochain.